Il survient chez les gens. Principalement, la femme peut avoir l'envie de boire beaucoup d'eau, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre qu'elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour le fœtus, vous savez, l'essai de type peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternelle ou materno-fœtale, qui va transiter vers l'enfant et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnose. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître est très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir, lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, la femme peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, L'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures, des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de poche partout.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation de sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs. Par exemple, régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Chez l'enfant, ça risque de passer au niveau du lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc, ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Nkeba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qui a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme, il fait souvent exercice physique, il ne mange pas avec les bikes, il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une sœur ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé. Contrôlez ce que vous mangez, faire des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez les médicaments et ça vous prévient des complications.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est une consultation normale, mais seulement la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous vous exposez. C'est comme ça qu'autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je l'ai dit tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des dystocies des épaules ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, deux grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement, déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième ou cinquième grossesse, on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui fait le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets, on doit veiller à faire une contraception pour éviter de les faire courir des risques déjà graves par rapport à leur état qui vont être majorés par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse ou la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète?
Oui, ça peut arriver chez une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc il n'y a pas une ligne de démarcation qui dise que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouve le bien fondé des consultations prénatales que les femmes doivent faire régulièrement.
Merci Dr Nkeba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement celle de leur dire que quand elles sont enceintes, déjà au premier jour, là, quand elle a remarqué au premier mois qu'elle n'a plus de règles, sitôt, elle doit aller consulter. Et lors des consultations, la femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles, parce que dans certains milieux, il y a des bilans qui sont limités et tout ça, mais je pense qu'au moins partout, on est accessible à faire des examens de routine. Ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ces CPN. Et lors de CPN, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, Dr Nkeba, de nous avoir accordé cette interview.
Non, c'est moi qui vous remercie pour la confiance.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur le cancer du col de l'utérus. Et le docteur Oluwasanmi Akintade, directeur de la santé reproductive à la Fondation Elisabeth Glaser au Lesotho, nous en dit plus sur ce type de cancer. De plus, des fonds d'investissement dans la recherche pour un patch à vaccin anti-Covid à ARN messager. Enfin, les végétaliens célèbrent une décennie de véganuarie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de Carnet de santé. Une femme meurt toutes les deux minutes d'un cancer du col de l'utérus. Selon l'Union internationale contre le cancer, l'Afrique subsaharienne a le taux de cancer du col de l'utérus le plus élevé au monde. Un vrai tueur silencieux, les experts affirment que ce cancer se développe très lentement et peut prendre des années, voire des décennies. Les symptômes précoces les plus fréquents d'un cancer du col de l'utérus comprennent des saignements survenant en dehors de la période des règles, règles, spontanément ou après des rapports sexuels. Des douleurs dans la région pelvienne et du sang dans les urines lorsque la maladie est avancée. Selon les experts, la très grande majorité des cancers du col de l'utérus sont liés aux infections à papillomavirus humain ou HPV, virus très répandu qui se transmet par voie sexuelle. L'OMS affirme qu'on peut guérir du cancer du col de l'utérus s'il est diagnostiqué à un stade précoce et traité rapidement. Suivez ce reportage.
Janvier est le mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus dans le monde entier. Le cancer du col de l'utérus est une forme de cancer qui affecte les cellules du col de l'utérus dans l'organe reproducteur féminin à l'échelle mondiale. L'un des cancers les plus fréquents chez les femmes, selon l'OMS.
Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde et 85% des cas de cancer du col de l'utérus surviennent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire.
Le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain, ou VPH, souvent transmis par contact sexuel. Il peut être prévenu par la vaccination et le dépistage et peut être traité s'il est détecté tôt. Selon les experts, le taux d'incidence varie considérablement entre les pays et les régions en raison des différences d'accès au dépistage, aux programmes de vaccination et aux traitements. L'Organisation mondiale de la santé avertit que le manque d'accès contribue à 90% des décès et la plupart d'entre eux se produisent en Afrique. Cependant, chaque femme est à risque de développer un cancer du col de l'utérus.
Certaines pourraient penser que ce n'est pas quelque chose dont elles doivent s'inquiéter. Cependant, le cancer peut survenir chez toute personne qui a un col de l'utérus et il est donc vraiment important de comprendre les moyens de se protéger avec un dépistage pour l'identifier tôt et le traiter avant qu'il ne devienne intraitable.
Pour réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus chez les femmes en Afrique, l'Union internationale contre le cancer recommande, entre autres, de couvrir les services de lutte contre le cancer du col de l'utérus dans les forfaits de soins de santé de base, d'utiliser les plateformes de tests existantes pour d'autres maladies, telles que le VIH et la tuberculose, afin d'améliorer la surveillance, le dépistage et la prise en charge du cancer et intégrer la prévention, le dépistage et les soins palliatifs dans d'autres programmes de santé.
Que savez-vous du cancer du col de l'utérus et vous sentez-vous concerné par cette maladie? Voici quelques réactions recueillies au Nigeria.
En fait, je ne sais rien à ce sujet. Alors, pouvez-vous m'éclairer?
Je sais que le cancer du col de l'utérus est le cancer qui affecte les zones utérines et beaucoup de femmes dans tous les pays, en particulier en Afrique, en souffrent. Et c'est juste dommage d'avoir ce type de maladie en Afrique.
Vous savez, autant la sensibilisation au VIH est présente partout, autant le cancer du col de l'utérus ne l'est pas. J'ai donc l'impression que ça devrait être quelque chose dont on parle toujours, que ce soit en janvier ou en février ou durant n'importe quel autre mois de l'année. Il faut qu'il y ait une prise de conscience parce que c'est un problème qui devient très répandu et qui concerne les femmes.
J'avais une cousine que j'ai perdue à cause de ça. Ce n'est pas une bonne chose à voir.
Bien sûr, cela me préoccupe parce que je veux aussi faire un contrôle pour le cancer du col de l'utérus, surtout quand on vieillit à partir de 35 ans. Il faut toujours commencer à penser à sa santé plus qu'à sa richesse.
Ma question aux experts serait la suivante. Vous êtes conscient de ces choses? Comment pouvons-nous aider les femmes à prévenir le cancer du col de l'utérus plus tôt et mieux? Merci.
Le docteur Oluwasanmi Akintade est directeur de la santé reproductive au Lesotho de la Fondation Elizabeth Glaser Pediatric AIDS, EGPAF. Il nous en dit plus sur le cancer du col de l'utérus.
Il existe des facteurs de risque pour qu'une femme développe un cancer du col de l'utérus. Et certains de ces facteurs de risque comprennent les abus sexuels précoces. D'abord, la grossesse à un très jeune âge, avoir des partenaires sexuels multiples qui augmentent le risque de l'individu de contracter plusieurs virus. Nous avons l'utilisation du tabac qui compromet l'immunité de la personne et l'intégrité des cellules du col de l'utérus. Nous avons un état immunodépressif quelle qu'en soit la raison, en particulier chez les femmes vivant avec le VIH, qui augmente le risque de développer un cancer à partir des cellules. Les femmes qui vivent avec le VIH ont un risque plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus. Il est environ 6 fois supérieur à celui des femmes qui ne vivent pas avec le VIH. Normalement, lorsqu'une personne est infectée par le virus du papillome humain, la plupart du temps, elle ne présente aucun signe d'infection et la majeure partie du temps, notre corps est capable d'éliminer complètement ce virus. Cependant, chez environ 5 à 10 % des femmes, pour une raison ou une autre, la patiente ne sera pas complètement guérie, ce qui signifie que le virus restera dans son corps. Donc, cette femme ne présentera pas de signes. Au moment où elle aura les signes ou les symptômes, la vérité est qu'il est trop tard. Ainsi, les femmes devraient commencer le dépistage à partir de 25 ans si elles vivent avec le VIH. Et pour les femmes qui ne vivent pas avec le VIH, elles peuvent commencer le dépistage à partir de 30 ans. L'objectif est donc de détecter des changements très précoces dans le col de l'utérus qui sont des indicateurs de signes alertant que si rien n'est fait, les individus ont la possibilité de développer un cancer du col de l'utérus. La méthode de dépistage la plus précoce utilisée est donc le frottis vaginal. L'autre test couramment utilisé est l'inspection visuelle à l'acide acétique. Ainsi, après avoir appliqué de l'acide acétique, qui est comme le vinaigre commun que nous utilisons à la maison, nous sommes en mesure de voir des changements de couleur blanche, des taches blanches sur l'ouverture de l'utérus, que nous appelons col de l'utérus, ce qui montre qu'un processus est en cours. Oui, cependant, à l'avenir, de plus en plus de pays adopteront le test de virus du papillome humain, qui est le plus sensible de tous les tests et le plus précis. Les tests HPV permettent de détecter le virus à l'origine du cancer, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre que les changements anormaux commencent à se produire pour déterminer que le processus ou l'organisme à l'origine du cancer est déjà présent dans le col de l'utérus. Et une fois que nous en prenons note, nous pouvons mettre en place un traitement le plus tôt possible. La stratégie pour éradiquer le cancer du col de l'utérus se repose sur 3 piliers. Il s'agit premièrement de la vaccination des filles entre 9 et 14 ans, en veillant à ce qu'au moins 90 % de nos filles soient totalement vaccinées contre le virus du papillome humain à l'âge de 15 ans. Ainsi, si une femme est entièrement vaccinée contre le virus du papillome humain, cela signifie que lorsque cette femme rencontrera le virus au cours de sa vie productive, son corps sera capable d'attaquer complètement ce virus envahissant et de l'éliminer complètement. Le deuxième pilier est l'utilisation d'une méthode de dépistage de haute précision. Et le dernier pilier de la stratégie est que toutes les femmes qui développent ce que nous appelons des précancers, qui sont les anomalies que vous voyez avant de développer un cancer, ou celles qui développent un cancer, au moins 90% d'entre elles devraient recevoir un traitement.
La Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, CEPI, a annoncé qu'elle fournirait jusqu'à 4,3 millions de dollars à la société de biotechnologie Vaxas, qui développe un patch à vaccin à ARN messager qui pourrait faciliter la lutte contre le COVID-19. Les vaccins basés sur la technologie de l'ARN messager développés par Pfizer BioNTech et Moderna sont parmi les plus utilisés dans la lutte contre la pandémie de COVID, mais il nécessite un stockage ultra froid avant utilisation. Selon la CEPI, le patch de Vaxas pourrait remédier à cet inconvénient en supprimant le besoin de stockage ultra froid, en facilitant la distribution et en offrant un dosage précis et sûr avec un minimum de déchets. La CEPI a aussi annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir l'Institut Pasteur du Sénégal dans la fabrication des vaccins pour les pays du Sud. Par ailleurs, l'OMS a lancé un appel pour plus de 2 milliards de dollars en 2023 afin d'aider des millions de personnes confrontées à des urgences sanitaires dans le monde. L'organisation affirme que toutes ces urgences se chevauchent avec des perturbations massives des systèmes de santé causées par la pandémie de COVID-19 et d'autres maladies mortelles comme la rougeole et le choléra.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons discuté avec le Dr Timothée Nkiba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez